Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie, spécial étrange festival jour 6. Comme prévu, il n'y a pas eu d'épisode pour le jour 5, voilà, puisque je n'ai vu aucun film tout simplement, c'était un petit jour de repos. Et aujourd'hui, on va reprendre très fort, voilà, même si on n'a pas vu de film hier, ça repart bien comme il faut, puisqu'on va parler de 5 films et on commence tout de suite par La fuite du capitaine Volkonogov de Natalia Merkulova et Alexei Tchoupov.
Просто отпусти. Просто скажи прощаю.
Вот как думаешь, капитан? Вот почему они все твердят, что невиновны?
URSS 1938, alors que Staline commence à éliminer les hommes de ses propres services de sécurité, Volkonogov, l'un de ses fidèles spécialisé dans l'art de faire avouer les ennemis de la patrie par tous les moyens, prend la fuite se sachant condamné. Lorsqu'il prend conscience de des crimes qu'il a commis, sa traque se mue en quête d'expiation. Il va rechercher les familles de ses dernières victimes afin de recueillir leur pardon. Alors, comme vous l'aurez entendu, c'est un film russe. Voilà. Et ça a pas mal fait polémique, apparemment. Puisque l'étrange a hésité à le prendre en raison de sa nationalité, ce qui est compréhensible au vu du contexte. Maintenant, je ne connais pas les deux réalisateurs, je ne connais pas leur position sur les événements actuels, mais voilà. Il y a quand même un truc, je le précise au début pour passer à autre chose ensuite, qui m'a quand même interpellé, c'est que le film a été en partie financé par le ministère de la Culture russe. Voilà, donc bon. Quand on voit ça au générique, forcément, ça fait quelque chose, surtout avec les événements actuels, comme je le disais. C'est vrai que le producteur disait, il y a un an, on présentait le film, on était à Venise. Ouais, mais il y a un an, c'était pas le même monde. Voilà, ils l'ont dit, hein, voilà, l'acteur et l'acteur, d'ailleurs, je sais pas si c'est la traductrice qui avait un peu du mal ou s'il avait une position plutôt ambiguë ou voilà, mais bref, c'était pas super clair, le propos de l'acteur. Maintenant, ouais, le producteur disait, ouais, il y a un an, on était à Venise, depuis, ça a changé. Bah oui. Voilà, mais bon, là où en fait il y a eu une grande différence entre l'acteur et le producteur, c'est que le producteur a vraiment insisté sur le truc de oui, donc c'est un film qui montre l'oppression en Russie à l'époque de Staline, mais pas seulement, enfin voilà, c'est valable aussi de nos jours et pas que en Russie, donc voilà, il a bien mis plus l'accent sur le caractère dénonciateur du film que l'acteur, à mon sens, qui a fait des remarques, je sais plus, des remarques que j'ai trouvées un peu bizarres. Qui ont fait que la présentation du film avait été, enfin que j'avais trouvé ça particulier, pardon, mais voilà. Bref, passons au film en lui-même que j'ai trouvé très bon, voilà. Hormis cette présentation qui était plutôt étrange, j'ai trouvé le film très bon. Je vais dire un des points négatifs, le principal selon moi, qui est l'esthétique. Alors c'est un film qui à une photo plutôt soignée, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, je ne comprends pas. On a parlé il y a quelques jours de La femme de Tchaïkovski, donc c'est vrai que La femme de Tchaïkovski, ça se passait, fin de la dernière année, c'était dans les années 1890, voilà, le film se termine dans ces années-là. Et donc là, on a un film qui se passe dans les années 30, 1930, donc on a à peu près 30 ans d'écart. Mais on a un truc où c'est vraiment une photo qui fait ressortir les couleurs, qui est plutôt vive, qui est plutôt voilà, qui est très sympa et très jolie à regarder. Enfin, la photo de La fièvre de Tchaïkovski est super belle aussi. La fièvre de Tchaïkovski, j'ai mélangé les deux titres, c'est fou ça. La femme de Tchaïkovski est très belle à regarder, c'est comme je disais, tout le long c'est terne en fait, pour justement faire ressortir cette réalité là, enfin comment c'était en Russie à l'époque, justement de cette réalité là de qu'est-ce qu'était la Russie à l'époque, comment il y avait de la misère, enfin ça je vous en ai parlé, voilà, de comment était représentée la misère. Là, il y a aussi une image de certaines personnes pauvres, de misère, etc. Mais l'esthétique, en fait, ne laisse pas du tout dégager ça. Voilà, l'esthétique vraiment laisse... Alors que c'est même un film qui a une ambiance pesante, qui parle d'oppression, voilà, qui parle de, des grandes purges. Les grandes purges, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la période où Staline éliminait ses ennemis, entre guillemets, où en gros ils faisaient des faux procès politiques ou des condamnations à mort directement ou des déportations au goulag pour en gros se débarrasser de toutes les personnes qui pourraient potentiellement lui prendre le pouvoir. Voilà, donc c'est une période vraiment de l'histoire de l'URSS et de la Russie qui n'est pas super joyeuse, voilà, qui est même vraiment compliquée pour tous ces gens qui ont été tués et déportés. Donc effectivement, le fait qu'il y ait cette photo-là, c'est plutôt étonnant. Voilà, tout simplement, parce que compte tenu du contenu du contexte politique à l'époque, c'est très étonnant d'avoir vu cette photo-là et pas une photo comparable à celle de la femme de Tchaïkovski. D'autant plus que je me suis fait la remarque, mais c'est vrai que je me suis rendu compte de ça à la fin, il n'y a aucune musique dans le film, à part au générique. Et à un moment où un des personnages, et à un moment où une espèce de chorale de personnages chante une musique de guerre, quoi, d'armée. Mais donc, à part ça, il n'y a pas de musique originale, enfin voilà, de la musique vraiment une BO, il n'y a pas dans le film. Donc, c'est vrai qu'on a justement, dans l'ambiance, dans l'atmosphère, on a un truc super froid. Voilà, il n'y a même pas de musique ou quoi, donc c'est super froid, super. Hyper sec, je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais voilà. Donc il y a un truc qui colle bien avec justement l'atmosphère et le propos de l'histoire du film, voilà, de ces éliminations par Staline de ses opposants entre guillemets. Donc oui, effectivement, dans l'ambiance, en tout cas dans ce qu'on ressent, ça marche pas mal. Voilà, dans ce fait qu'il n'y a pas de musique, dans le truc assez pesant, et c'est d'autant plus pour ça que je ne comprends pas le choix de l'esthétique, voilà, d'avoir fait une esthétique super vive. Voilà, tout simplement. C'est mon seul reproche au film. Maintenant, on peut parler du scénario que j'ai trouvé vraiment pas mal. En fait, c'est à ce moment où son ami qui travaillait avec lui, lui se fait exécuter parce qu'il n'a pas fui. Et il a une vision de lui, cette scène est assez impressionnante d'ailleurs, qui sort de la Terre en lui disant « Mais nous, maintenant, on est en enfer, on subit la damnation, etc. » Et donc, il y a ce truc où il a son intestin qui sort de son ventre et voilà, son pote le lui tord, etc. Et il a mal. Donc pour moi, bien évidemment, son intestin n'est pas vraiment sorti, c'est une hallucination. Mais c'est bien évidemment une métaphore sur sa culpabilité. Voilà, ça c'est assez évident. C'est pour ça qu'il a mal, c'est parce que oui, il y a une métaphore sur la culpabilité et sur justement son voilà, notamment la culpabilité d'avoir laissé son ami qui du coup est mort, a été exécuté suite au fait qu'ils se sont enfuis. Voilà. Donc oui, il y a cette culpabilité-là, et il y a la culpabilité par rapport aux actes qu'il a commis, puisque il a fait, entre guillemets, avouer des crimes aux gens, sauf que c'était bien évidemment des crimes qu'il n'avait pas commis. Il y a un moment où c'est expliqué vraiment, c'est mot pour mot. Pourquoi tu penses qu'ils sont innocents? Parce qu'ils essayent de se convaincre, non, parce qu'ils sont innocents. C'est juste qu'on les considère comme potentiel ennemi de la patrie et que voilà, il faut les faire avouer des trucs qu'ils n'ont pas fait en prévention de ce qu'ils pourraient faire. Voilà, vaut mieux, comme ils disent, enfin ça c'est ce qu'ils disent d'une conversation entre j'ai oublié son nom, Volkanovski et son supérieur, où ils disent mais tu vois, il vaut mieux démanteler une organisation terroriste avant qu'elle ait eu le temps de faire des dégâts, parce que quand t'as fait des dégâts, c'est trop tard. Voilà, donc il l'avoue, ça. Il l'avoue, les soldats sont au courant qu'ils forcent des innocents à avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis. Et donc forcément, il y a justement ce chemin de rédemption. Voilà, tout le film va être une quête de rédemption, où il va aller voir vraiment les gens un par un. Et il y a ces espèces de petits passages où ils vont voir les gens, où il va voir les gens un par un, pardon. Et je me suis dit, ça risque d'être un peu problématique, voilà, s'il va voir les gens un par un vraiment, dans le sens où ça peut être un peu redondant, pardon. Mais là où il est intelligent, c'est que chaque personne va réagir différemment. La première, je vais vous donner quelques petits exemples. La première réagit tout simplement en lui disant d'aller se faire enculer. Voilà, littéralement, c'est vraiment les sous-titres. Je ne sais pas si c'est la traduction littérale en russe, mais en tout cas, dans les sous-titres, il y avait marqué ça. La deuxième devient un peu, je n'ai pas envie de dire folle, mais elle est vraiment dans un état second où, quand il lui dit ça, elle lui sert un thé, elle lui fait « Non, mais buvez juste votre thé, s'il vous plaît. » Voilà, elle est vraiment dans un état second, ce qui est très étrange. Ensuite, elle va se foutre à poil, voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, vraiment, il y a ce truc de... elle est vraiment en état de choc. Il y en a un qui lui fait « Ouais, j'ai de toute façon mon fils, je l'ai renié. » je m'en fous, c'est un ennemi de l'État, machin. Et en fait, il y a un twist et il fait non, mais en fait, voilà, c'était pas un ennemi de l'État, on l'a forcé à avouer, etc. Et il fait je savais que ça pouvait pas être le cas. Et en fait, retwist, en fait, il appelle l'armée rouge, tout simplement, pour qu'ils viennent chercher le capitaine. Et il l'assomme avec un téléphone. Donc voilà, il y a tout ce genre de truc où le chemin vers sa rédemption va pas du tout se faire en deux temps trois mouvements, où il y a toutes ces complications et il y a toutes ces différentes réactions qui montrent bien l'endoctrinement pardon, et voilà, la fidélité présumée, ou en tout cas la fidélité, oui il y a une fidélité, mais elle est pas artificielle, j'ai pas le mot, mais en gros elle est pas forcément naturelle, voilà, elle est forcée, ou en tout cas on a forcé les gens, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais on les a forcés à avoir cette fidélité là. Et on en reparlera avec un autre film que j'ai vu aujourd'hui, de la compétition, plus tard dans le podcast. Mais oui, il y a ce rapport-là de fidélité, de trucs, de voilà, de dictatorial en fait, voilà, hein, c'est clairement un régime totalitaire. Donc c'est intéressant de voir à quel point il y avait une oppression, il y avait un climat de peur aussi. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est au fur et à mesure où il va rendre visite à ces gens-là pour avoir sa rédemption, on a un montage alterné où il a en fait, on voit les derniers moments qu'il a passé avec les victimes, voilà, les derniers moments de torture en fait, voilà, on voit ça, les derniers moments de torture où, enfin, qu'il a passé avec justement les victimes qu'il a assassinées. Il y en a qui, alors ça se passe hors champ. Mais on devine qu'il y en a une qui l'a assassiné lui-même, sinon c'est un bourreau, voilà. Lui, il l'est forcé juste à avouer. Et il y a une scène qui est absolument, absolument démente avec un petit enfant qui va lui confronter, en fait, droit dans les yeux. Enfin, c'est assez impressionnant, en fait. Il lui fait, ouais... mon papa, c'est un ennemi de la patrie, et ma maman, elle a dit que les ennemis de la patrie peuvent pas être des pères. Voilà, il y a un truc comme ça. Après, il lui fait, en fait, on a menti, ton papa, c'était pas ça. Ton papa, il a pas été du tout un ennemi, en fait, c'est qu'on a dû utiliser des méthodes spécifiques, ça, il le dit à chaque fois, pour lui faire avouer. Il a dit ça sous des méthodes, enfin après utilisation de méthodes spécifiques. Et le petit lui fait c'est quoi des méthodes spécifiques? Il dit c'est quand on force quelqu'un à avouer quelque chose. Donc il fait vous l'avez torturé. Tu vois, il confronte, il lui dit les termes et c'est hyper impressionnant en fait. Parce que voilà, c'est l'innocence d'un enfant. Un enfant, c'est censé être une des choses les plus pures. Une des plus pures qui existent. Donc ouais, la pureté de cet enfant qui du coup a vraiment littéralement aucune gêne et aucun filtre, et qui va totalement le confronter, et ce qui voilà est toujours pour moi est assez impressionnant en fait, et qui marque totalement, c'est voilà le regard d'un enfant. En plus c'est un enfant endoctriné, parce que il dit oui, à l'école on nous apprend ça, etc. Il a déjà un esprit de propagande, mais ça reste un enfant qui voilà arrive à être un peu lucide et à confronter ce soldat sur ses actes. Donc oui, forcément il y a un propos sur le totalitarisme et sur les dégâts que ça a fait à l'époque, et sur voilà le fait que les gens à l'époque étaient totalement aveugles, puisqu'ils avaient une confiance aveugle en leur leader, mais ça on en reparlera notamment voilà avec l'autre film que j'ai en tête, mais on a aussi ouais cette critique de ce que les soldats ont fait ou ont été forcés à faire. Après il y en a, ils le faisaient, mais c'est du lavage de cerveau, voilà, on leur dit, ça c'est pour la patrie, ils sont convaincus qu'ils font une bonne action. Il y a un moment où son supérieur lui dit, mais moi j'ai rien à me repentir parce que je fais ça pour la patrie en fait, voilà. Donc ils sont totalement lavé le cerveau, et pour eux ce qu'ils font c'est une bonne action, ça sert la communauté, alors que vraiment ils condamnent des innocents quoi, voilà, des innocents à la mort, au goulag, enfin il n'y a pas de goulag dans le film, c'est vraiment que de la mort, donc c'est voilà. Écoutez, c'est un très beau film, un très bon film en tout cas sur justement ce que peut être un endoctrinement, ce que peut être la vie en régime totalitaire, ce que peut être le fait de de vivre dans ce régime-là, voilà, d'être forcé, d'être lavé, enfin de se faire laver le cerveau et voilà, de juste devenir un engrenage du système. Parce que oui, sur le papier, voilà, le communisme, c'est bien beau. En tout cas, je parle à l'époque, hein, voilà, le communisme, je parle pas en termes général, je parle vraiment spécifiquement dans ce pays-là, cette époque-là. Mais oui, c'est bien beau, les fermes en commun, le kolkhoze, tout ça. On va être contre les koulaks, ces riches paysans qui ont plein de terres parce qu'il faut qu'ils les mettent en commun avec tout le monde pour que tout le monde soit égalité. Oui, mais en fait, le communisme en URSS, c'était surtout pour que Staline puisse installer sa dictature et son régime totalitaire et mener sa politique de grande purge et de terreur. Voilà. Donc, c'est un film qui est intéressant pour l'époque, qui est intéressant à mettre en relief avec ce qui se passe en Russie, notamment. Mais aussi voilà ailleurs comme l'a dit le producteur aujourd'hui et voilà c'est un film que j'ai trouvé assez sympathique où j'ai fait mes quelques reproches que j'avais à lui faire mais voilà dans l'ensemble c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Allez, c'était pas forcément prévu mais bon vu que ça a été diffusé dans la séance Canal+ et que j'ai beaucoup aimé, on va parler du court-métrage Apologie des zèbres albinos de Guillaume Talvas. Alors je vais essayer de pas passer beaucoup de temps dessus, on a déjà beaucoup un programme très chargé. 2146, la fertilité masculine est éteinte pardon, un jeune couple pauvre va acheter un bébé low cost révolutionnaire. Alors, on a été assez surpris de voir qu'il y avait Damien Bonnard dans ce court-métrage. Voilà. Après, ça a été tourné en 2018, donc il est peut-être pas encore la popularité qu'il a maintenant, mais c'est vrai quand on nous a dit, bah, c'est avec Damien Bonnard. Ah, d'accord, ok. Pourquoi pas? Du coup, c'était assez assez agréable à regarder. Et puis même, je trouve que le cours a une très bonne idée. C'est un cours qui est quand même très drôle. Où effectivement, on leur dit oui, ils veulent acheter un bébé. Ils y vont et en fait, on leur fait, bah, là, vous pouvez choisir, en fait, la couleur d'yeux que vous voulez. Il fait, mais il y a que du rouge là. Non, il n'y a pas que du rouge. Regardez, on a plein de teintes différentes, etc. Alors qu'en fait, il n'y a que du rouge, voilà. C'est juste qu'il fait, ah oui, mais les autres couleurs, elles sont brevetées, donc c'était trop cher pour nous. Donc c'est ce genre de truc-là. Donc ouais, il y a une critique, au début ça s'ouvre, et il y a une critique un peu aussi, notamment des catastrophes écologiques, de une potentielle catastrophe nucléaire qui ne saurait tarder, et qui m'angoisse de jour en jour, voilà. Donc oui, il y a ces critiques-là, forcément, mais il y a surtout dans le film, selon moi, au-delà d'être vraiment comme de la SF. Il y a surtout, enfin c'est un très bon film de SF, hein, mais pour moi j'ai beaucoup aimé le côté comique. Voilà, il y a des blagues plutôt marrantes. Donc ouais, c'est un film qui passe très bien. Notamment, on nous a expliqué que pour les effets spéciaux, enfin justement c'est les effets spéciaux qui a fait que le film a pris autant de temps à être finalisé. Je les trouve. Franchement, pour un court-métrage qui du coup n'a pas forcément dû avoir un budget conséquent, c'est des bons effets spéciaux. Franchement, voilà, il n'y a rien à dire. C'est des effets spéciaux qui sont en somme toute maîtrisés, voilà, qui franchement nous font, enfin nous plongent bien dans l'univers, on y croit. Voilà, on croit. C'est vrai que c'est des décors un peu actuels, surtout il y a des décors que je connais bien, notamment ils sont sur une place à Suresnes où j'ai déjà été plusieurs fois, donc que je connais bien. Donc c'est vrai que quand on connaît les décors, ça fait un peu bizarre. Par contre, scénaristiquement, il y a un truc que je trouve assez absurde. C'est le fait de. Comment dire? C'est censé être une compagnie low cost, donc une compagnie qui ne veut pas dépenser beaucoup d'argent pour ses bébés. Mais je fais un peu spoil. Il y a une. En gros, les deux personnages principaux sont pas super chauds pour faire bah, adopter, voilà, concevoir leur enfant là-dedans. Et en gros, et l'assistante a une révélation. Elle fait, alors il va juste falloir qu'on lance une campagne de pub à grande échelle et ils reviendront. Mais donc justement, pourquoi se faire chier à lancer une campagne de pub à grande échelle juste pour que eux reviennent? Voilà. Pourquoi spécifiquement pour eux? Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? En fait, ça attirait plus de monde. Voilà. Donc c'est ce truc que j'ai trouvé un petit peu absurde, un petit peu incohérent par rapport à ce film. Mais bon, voilà. C'est à peu près tout. Et donc, comme j'avais dit, j'allais essayer de passer le moins de temps possible. Donc, on va tout de suite passer au long métrage que j'étais venu voir en priorité, à savoir Dual de Riley Stearns.
Do you want to live?
Yes?
I don't believe you.
I may be a size smaller than you.
I'm going to kill her. A properly trained human body is a weapon.
You're pretending to be me while I'm still alive?
Even if I can't be with her, I don't want to be with you.
Apprenant qu'il ne lui reste que quelques semaines à vivre, Sarah décide d'être clonée afin d'éviter à ses proches la douleur de sa perte. Mais 2 ans après, la voici en rémission avec une réplique qui lui a volé sa vie et ne compte pas la lui rendre. La loi n'autorisant pas la coexistence de l'original et de la copie, Sarah commence à s'entraîner pour le jour du duel mortel, bien décidée à remporter la victoire. Alors, plus précisément, à un moment, elle dit « je vais effacer mon double » et le double fait « bah non, en fait, j'ai commencé à vivre ma vie, donc je ne veux pas être effacé ». Donc voilà, c'est là où elle convoque cette loi du duel. Alors, j'attendais beaucoup ce film parce que j'en avais entendu parler, notamment pour son passage à travers pas mal de festivals. Je sais qu'il était au BIF, je sais qu'il était à Deauville, donc forcément je l'attendais. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est réellement ? On a un début, somme toute, voilà, qui cette phase d'exposition de « elle va mourir, machin, donc elle se fait cloner, etc. » Et en fait, ah bah non, elle est vivante, voilà, donc... À partir de ce moment-là, on se dit, on a la perspective du duel. On se dit, ok, dans un an, elle a un duel. Et elle, pendant un an, elle s'entraîne, elle prend des cours littéralement pour développer son instinct de tueuse. Ce qui marche beaucoup. Voilà. Ce qui marche bien, elle devient très douée. Mais donc, ouais, on a ça avec Aaron Paul d'ailleurs. Voilà, au passage. Mais donc, oui, c'est. Elle prend ces cours-là, elle s'entraîne. Donc, tout le film, c'est sur son entraînement physique, son entraînement combat au corps à corps. Tout le film est sur ça. Et là, je vais spoil, donc faites attention si vous n'avez pas vu et que vous voulez voir, je vais vraiment spoil parce que j'étais très frustré. Avant de spoil, je vais juste dire que ça fait vraiment la fin, l'effet d'un pétard mouillé, voilà. Et donc, en fait, il y a son double qui l'espionne pendant qu'elle s'entraide et elle commence à, je ne sais pas, parler ensemble et tout, et elles vont à une réunion de gens qui ont fait ce duel-là, enfin, ce duel-là... pas le leur à elle, mais qui ont participé à un même type de duel entre original et clone, et qui ont des remords, qui vivent mal, et donc voilà, donc elles vont à cette réunion-là, bref, au bout d'un moment, elles se rendent compte que oh bah, c'est un peu dommage quand même, pourquoi on ne pourrait pas vivre toutes les deux, franchement, on va s'enfuir, on ne va pas aller au duel. Donc à partir de ce moment-là, moi je suis un peu frustré, parce que je me dis, ok, j'étais quand même venu pour voir justement ce duel-là, c'est comme dans ce Last Duel de Ridley Scott, si vous venez, c'est pour voir Matt Damon et Adam Driver se taper sur la gueule à la fin, voilà. Il y a toute l'histoire autour qui est super intéressant, ce propos féministe sur comment la femme est mise au second plan, comment il y a cette masculinité toxique, pardon. Donc, y a tout ça. Bref, elle a écouté le podcast top de l'année sur The Last Duel. Mais il y a quand même cette perspective à la fin du duel où on se dit, putain, on a envie de les voir se taper. Bah là, c'est pareil. On se dit, putain, on a envie d'un truc bien mis en scène à la fin où elle se tape, etc. Et en fait, il y a ce tournant-là. Donc, moi, je me dis, bon, certes, j'avais envie de voir un duel, mais ça peut être intéressant comme réflexion. Voilà, de se dire... bon bah les clones, l'alliance des clones, elle est plus forte que cette règle sociétale qui font que bon bah voilà, elles vont s'enfuir ensemble et en fait il y a quand même une des deux personnes, enfin entre l'original et le clone qui meurt et c'est pas dans un duel. Et donc moi je veux bien à la limite ne pas faire de duel, mais si vous en faites mourir une, bah, au moins que ce soit dans un duel, parce que du coup, ça a juste comme effet de frustrer le spectateur. Et la fin, je la trouve vraiment décevante. Voilà. Y a un plan qui est assez symbolique, avec un rond-point coupé en deux, où il y a de la végétation à gauche et pas à droite. Maintenant, hormis ce plan de fin, je trouve vraiment la fin, comme je dis, qui fait un effet pétard mouillé, parce qu'on s'attend au duel, à un truc, une fin, voilà, comme ça. Et en fait, il n'en est rien, et on est assez déçu, voilà, de cette fin. Et ça gâche un peu le reste du film. En fait, c'est surtout que bah, elle passe le reste du film à s'entraîner, à truc, à machin, pour qu'au final, ça lui serve pas. Donc, c'est dommage, en fait. C'est juste dommage, parce que le film n'est pas mauvais, fondamentalement. Il y a des idées intéressantes, notamment, ouais, dans les entraînements... Moi, j'ai beaucoup aimé l'humour. C'est avec Karen Gillan. Donc, si vous ne voyez pas forcément qui c'est, vous avez pu la voir dans le MCU, notamment. Je crois que c'est elle qui joue Nebula. Ou dans Jumanji. Donc, c'est vrai qu'elle part sur un film un peu plus auteur plutôt que des films à grande production, des Marvel, etc. Mais elle a un truc où, en fait, elle est très, très forte. Elle a un tempo comique qui est assez impressionnant et qui fait qu'on rigole vraiment pas mal de fois. C'est-à-dire plusieurs fois, mais c'est même au-delà de plusieurs fois qu'on rigole vraiment pas mal de fois. Voilà. Donc, elle est vraiment excellente, Karen Gillan, là-dedans. Aaron Paul aussi est très bon, notamment, il y a des moments où il lui apprend à se battre. Et où en gros ils font une espèce de simulation genre ah là coup de couteau voilà ce qui se passe etc. Et donc je trouve ça assez rigolo, voilà, c'est une partie que je trouve plutôt réussite et plutôt drôle. Après il y a des trucs où ouais c'est juste une histoire de tempo qu'elle a, voilà juste une histoire de tempo quoi, genre par exemple il y a sa lettre qui sa double qui lui, elle lui a un peu volé sa vie, son mec etc, sa mère et tout, et en fait elles doivent s'écrire une lettre à soit pendant la réunion à l'original ou à au double tout simplement, et sa double elle lui lit la lettre en mode oui elle reconnaissait tort genre qu'elle lui a volé sa vie etc machin et tout, et elle lui fait bah de toute façon peut-être que tu pourras me lire ta lettre un jour ou l'autre, j'imagine que t'avais à peu près écrit la même chose, et elle fait ouais, et genre c'est voilà c'est des trucs tout cons comme ça, mais c'est des timings comiques qui sont vraiment très bien gérés et qui sont plutôt très impressionnantes, et voilà, donc tout simplement Karen Gillan dans ce film est voilà très très bien dans les temps en termes de comique, et c'est vrai que c'est pas forcément un film qui voilà, c'est plus avant tout de la SF et une réflexion sur aussi le deuil, parce que en soi elle veut leur éviter le deuil, sauf que elle ça les écarte, enfin elle ça l'écarte de sa vie, ça l'écarte de ses proches, mais après bon vu ses proches bon c'est vrai que voilà préférer ton double à toi c'est un peu dégueulasse, donc il y a aussi une réflexion sur ça, puis il y a cette réflexion bien évidemment que le spectateur ne peut pas s'empêcher de se demander, c'est si jamais ça m'arrivait, si jamais j'étais mourant, est-ce que je le ferais, voilà, parce que forcément on n'a pas envie que nos proches souffrent même si c'est inévitable, et donc ouais forcément il y a cette hésitation voilà qui est bien présente. Qui peut voilà qui fait s'interroger le spectateur, c'est le but évidemment, c'est voilà de pas rester passif en fait devant ce qu'on voit, et là pour le coup on reste pas du tout passif, et voilà je trouvais ça plutôt appréciable. Maintenant ouais effectivement je trouve que quand t'appelles ton film dual, quand tu l'ouvres avec un duel, quand la plupart de ton film, ton personnage principal passe son temps à s'entraîner pour ce duel à mort et qu'au final ce duel n'arrive pas, bon, voilà, comme je dis, c'est vraiment effet pétard mouillé et ça donne un truc qui est peut-être plutôt décevant au final, même si ça n'enlève rien à la qualité du film, mais ce qui aurait pu être un film excellent, voire voilà, très bien excellent, est juste un film sympa, voilà, tout ça parce qu'on reste sur notre fin, et que pour moi il y avait mieux à faire dans l'évolution scénaristique, voilà, mais après c'est pas fondamentalement un mauvais film, hein, c'est juste que je pense que ça aurait pu être mieux en le tournant de cette manière là, mais en soi ça reste sympathique, donc si vous voulez le voir sur Canal, voilà, c'est quand même bien maîtrisé, hein, voilà, en termes de d'images, de plans, tout ça c'est quand même très bien maîtrisé, mais c'est juste ça qui m'a gêné, voilà, mais il y a un bon casting quand même, donc c'est aussi à souligner. Et si ça vous tente, bah allez-y tout simplement, mais je vous préviens, ne vous attendez pas à ce duel final vu qu'il n'arrivera jamais. Allez, on va passer à ce qui était une de mes plus grosses hypes de ce festival, à savoir La Piedade de Eduardo Casanova.
No te das cuenta de que cuando te alejas de mí todo va mal. He puesto una foto de mamá para que siempre esté contigo.
Matteo aime le rose et sa mère Libertad. Mais un jour, dans ce monde à deux voix, on annonce à Matteo qu'il souffre d'un cancer. Alors, quand je vous disais qu'on allait reparler d'endoctrinement et tout ça, par rapport au capitaine... putain, j'oublie tout le temps son nom. J'allais dire Vogdanov, mais c'est pas du tout ça. Volkonogov, voilà. Au capitaine Volkonogov. C'est sur ce film-là, voilà. Il faut savoir que j'ai pas vu... par contre, on a fait un très bon... Enfin, ça m'a beaucoup attiré le pitch comme on a fait de Skins, du premier film du réalisateur. Donc, je vais essayer de voir si je peux le trouver parce que ça a l'air vraiment pas mal. Mais bref, j'avais jamais rien vu. Ah, c'est sur Netflix, cool. J'avais jamais rien vu de lui, voilà. Maintenant, La Piedade, je vais pas vous mentir. pour l'instant, et ça va être compliqué de faire mieux, mais c'est le meilleur film de la compétition, pas du festival, parce qu'il y a quand même La Femme de Tchaïkovski qui existe, mais c'est le meilleur film de la compétition pour le moment. On nous a dit en présentation, etc., enfin, que oui, fallait faire gaffe parce que, enfin, pas que fallait faire gaffe, mais en gros, vous allez voir, ça parle aussi de complexe d'Oedipe, etc. Non, c'est pas du complexe d'Oedipe pour moi. Parce que le complexe d'Oedipe, c'est un enfant qui aime le parent de sexe opposé, voilà, et du coup qui voudrait, entre guillemets, tuer, comme c'est le cas dans le mythe d'Oedipe, le parent du même sexe, parce qu'il serait jaloux de l'amour que son autre parent lui porterait. Pourquoi c'est pas un complexe d'Oedipe pour moi ? C'est que, en soi, on voit que le fils essaie de s'émanciper. Voilà, Matteo, c'est vrai qu'il y a cette esthétique dès le début qui est, en fait, quand on dit ce monde à deux voix dans le synopsis, je trouve ça assez poétique et assez intelligent parce que il y a plusieurs manières de l'interpréter. Il y a ce monde à deux voix, notamment où sa mère est hyper, enfin, elle parle pour lui, quoi. C'est-à-dire que le docteur fait oui, Matteo, il a un cancer. Elle fait oui, j'ai un cancer. Non, vous allez bien, Matteo, il a un cancer. Oui, c'est ce que je dis, j'ai un cancer. Non, c'est pas vous qui avez un cancer, c'est Matteo. Oui, oui, j'ai un cancer. Voilà, donc c'est genre... Et puis, y a un moment où on lui conseille de voir un psy, elle voit le psy, sauf qu'elle fait que de répondre à la place de son fils. Voilà, c'est des trucs comme ça où c'est pour ça que l'expression « monde à deux voix », elle est cohérente. Pardon, elle est cohérente. Mais il y a aussi un truc où, pour moi, il y a vraiment deux esthétiques principales dans le film. On a une esthétique qui est plus justement dans ce qui est Matteo, sa maman et leur maison, qui est vraiment un truc super rose, vraiment très très rose, qui fait un peu... bon, il y a quand même des trucs en marbre, etc. dans leur maison, on sent qu'ils sont assez aisés. Mais sinon, ouais, ça fait un peu maison de poupée. Et donc, ouais, il y a ce truc-là de... ouais, cette esthétique un peu ouais, rose, maison de poupée, qui concorde pas mal avec justement l'oppression que Matteo subit de sa mère et qui vient s'opposer à la deuxième esthétique du film, qui est plus une esthétique grisée qu'on retrouve notamment à l'hôpital, qu'on retrouve dans la rue, qu'on retrouve en Corée du Sud, voilà, parce qu'en Corée du Nord, c'est plus l'autre esthétique. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et qu'on retrouve chez l'esthétique grisée, chez le père de... comment s'appelle-t-il ? De Matteo et sa nouvelle copine, voilà. On a aussi un aperçu de leur vie, puisque le père de Matteo est aussi mourant. Donc oui, on a ces deux esthétiques-là, sachant que, comme je dis, la première, je la trouve très intelligente parce que justement, il y a cet effet un peu maison de poupée qui marque bien en fait l'oppression et l'emprise de la mère sur son fils. Voilà, donc on n'est pas du tout pour moi sur un complexe d'Oedipe, mais sur, je ne sais pas si je l'ai dit, un syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand vous êtes prisonnier, vous êtes kidnappé, et qu'en fait, vous tombez amoureux en raison de ça, malgré vous, de votre ravisseur. Voilà, c'est ça le syndrome de Stockholm. Il y a notamment le plus connu actuellement, je pense, dans la pop culture, c'est La Casa de Papel qui a réussi quand même à populariser ce concept, voilà, de gens qui ne le connaissaient pas forcément avant et qui maintenant le connaissent, avec le personnage de Monica Gastambide qui tombe amoureuse de Denver qui est un des braqueurs et qui la retient techniquement en otage et donc voilà, on lui dit elle a un syndrome de Stockholm, etc. Et d'ailleurs dans les saisons d'après elle s'appelle Stockholm. Cela étant dit, fermons la parenthèse Casa de Papel. Donc pourquoi pour moi il y a un syndrome de Stockholm, déjà il y a une remarque qui est hyper du père, voilà, qui quand le fils va voir le père qui est en gros, ouais, il lui dit ta mère, c'est comme le soleil. Si tu vas trop loin, tu meurs de froid. Si tu vas trop près, tu te brûles. Mais pourtant, tu as besoin de lui. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour moi la définition du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que tu as vraiment des penchants négatifs. Vraiment, c'est littéralement que des penchants négatifs. Entre mourir de froid et brûler, voilà, il n'y a pas grand-chose de positif. Mais tu en as quand même besoin. Tu es quand même prisonnier en fait dans ce truc là et peu importe le nombre de fois où, voilà, peu importe le nombre de fois où il s'en va, il finit toujours par revenir. Et il y a un moment où il va voir son père seul, où il s'enfuit. Et la nouvelle compagne de son père, quand sa mère vient lui rendre visite, il lui fait, enfin, elle lui dit, en fait, si ton fils, il est revenu vers toi, c'est qu'en arrivant ici, il a eu un miroir. Voilà, le miroir étant son père. Et ça lui a fait peur parce qu'il a connu que toi. Et donc, elle lui fait, alors que, en fait, il m'a fait penser à ton ex-mari quand il est arrivé. Sauf que ton ex-mari, il n'avait pas de miroir, donc il est resté. Voilà. Et donc, effectivement, il y a voilà, cet aspect vraiment prisonnier où, en voyant justement cette espèce de miroir de personne qui a été comme lui sous l'emprise et qui a réussi même pas à s'en libérer en vrai, parce que son père est même pas... la nouvelle copine dit à l'ex-femme, à la mère, je sais pas comment t'as fait en fait, parce que il a beau te détester, il fait que de parler de toi constamment. J'aimerais trop que quelqu'un ait besoin de moi comme ça. Il a même pas forcément réussi à sortir, mais il est voilà, au moins il vit plus dans la maison, au moins il est sous l'emprise, mais avec une autre fille, dans une autre maison, dans une autre esthétique. Effectivement, il y a voilà, quand même une évolution. Et ça a pu faire peur, notamment à son fils, qui voilà, pour ça serait rentré et aurait fui. Voilà, ce qui en soi est amplement possible. Mais donc du coup, ouais, il y est. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'au moment où il fuit ça, quand il revient chez lui, il y a vraiment ce truc de d'avoir ce syndrome de Stockholm en beaucoup plus fort. Voilà, c'est pas seulement il revient chez lui, c'est il revient chez lui et c'est encore plus fort. Voilà, il y a un vrai attachement encore plus malsain qui se crée, alors que dans la première partie du film, il était plutôt dans un truc d'émancipation. Et à la fin, voilà, il y a vraiment ce truc de voilà, très puissant. Maintenant, ouais, il y a ce truc hyper malsain justement de la mère qui veut tout contrôler sur son fils, qui l'aime plus que tout, etc., qui, on a l'impression qu'elle fait qu'un avec lui, hein, c'est-à-dire qu'elle finit par se raser les cheveux, comme si c'était elle qui avait un cancer et qui faisait une chimio alors que c'est totalement son fils. Voilà, c'est hyper flippant, voilà, de voir à quel point elle essaie de contrôler ça. Elle n'écoute pas du tout les médecins, elle ne veut pas le laisser seul, elle ne veut pas le laisser sortir sans elle, enfin bref. C'est voilà, plein de trucs comme ça qui font que... ouais, elle est vraiment... infernale, et elle a vraiment une emprise qu'elle ne cesse de resserrer en fait, et qui donne un truc absolument terrible. Et d'ailleurs, cette mère va être comparée, et c'est là où je vais en venir, à Kim Jong-il, donc pour ceux qui ne le savent pas, le père de Kim Jong-un, qui est actuel dictateur de la Corée du Nord, mais où en gros, dès le début, il y a notamment une scène de journal télévisé où on parle d'un truc qui s'est passé en Corée du Nord. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est un truc du style, ouais, les chercheurs en Corée du Nord ont affirmé, ça faut que je me renseigne parce que si c'est une histoire vraie, c'est incroyable, mais avoir trouvé une licorne. Et en fait, ils disent que dans leur pays, c'est là où on est le plus heureux pour vivre, voilà, donc c'est genre le pays le plus sûr du monde, et c'est pour ça que la licorne a choisi d'apparaître là-bas. Je vais taper Corée du Nord licorne dans Google, c'est fou ce qui se passe, bref. Mais donc oui, il y a ce truc-là, donc qui fait un peu rire, voilà, au début. Qui fait franchement rire. Donc c'est une vraie c'est une vraie info. La Corée du Nord affirme avoir trouvé une ancienne tanière de licorne. C'est incroyable. Bref, voilà, c'est très drôle. Et donc oui, donc on se dit que bah justement c'est ça, c'est ce running gag. Voilà, il y a des trucs sur la Corée du Nord qui vont revenir, qui vont être plutôt récurrents. Mais pour voilà un running gag. Et en fait, on se rend compte que petit à petit la situation commence à faire écho. C'est-à-dire que il y a des gens en Corée du Nord qui ont été empoisonnés par le régime en fait, qui soi-disant, enfin je sais pas soi-disant, mais je sais plus quelle raison est invoquée. Je crois que c'est pour contrôler la natalité, la population, voilà, la densité de population. Et donc oui, effectivement, ils offrent des fraises à manger à une enfant et elle les mange et elle meurt, voilà. Donc empoisonnée par les dirigeants. Et en fait, il y a vraiment ce truc de manger des trucs empoisonnés ou ne pas manger, c'est le dilemme qui est en ce moment dans la tête des Nord-Coréens. Ou alors, il leur reste une solution, prendre la fuite. Et la mère éteint la télé à ce moment-là. Voilà, donc ça commence petit à petit à faire écho. Et donc ouais, au moment où ils y prennent la fuite, bon bah au moment ils décident de prendre la fuite. Sauf que il se passe un moment dans le film où on a en fait les scènes, ce qui se passe de justement ce truc où les enfants se sont fait empoisonner, on le voit cette scène-là. Et il y a c'est justement cette esthétique un peu rose aussi, comme chez la maman. Ensuite ils vont en Corée du Sud. Il y a la scène où ils sont en Corée du Sud où c'est une esthétique grise comme chez l'autre. Voilà. Donc il y a vraiment cette comparaison-là. Et la comparaison, à la fin, va toucher son paroxysme puisque l'histoire se passe en 2011, donc l'année où Kim Jong-il est mort. Et en fait, en tout cas, je ne sais pas dans la vraie vie, je ne suis pas spécialiste de la Corée du Nord, mais dans le film, c'est ça. Et en fait, il va y avoir des scènes de tous les Nord-Coréens qui sont en train de pleurer la mort de leur leader. Et c'est au même moment où, attention, ça spoil, où le personnage principal pleure la mort de sa mère. Et en fait, il y a des images qui se confondent où il est genre... en Corée du Nord, en train de pleurer, et c'est là où il voit sa mère, où sa mère prend la place littéralement de Kim Jong-il dans son cercueil, et où tous les Coréens sont en train de pleurer sa mère. Et en fait, le soir, il sort dans la rue, et il est en train de hurler, il est pas bien dans la rue, et ça se finit sur ça. Voilà. Donc, plutôt perturbant. Effectivement, il y a pour accentuer l'oppression, comme si ça suffisait pas. Au cas où on n'avait pas compris qu'il était sous un syndrome de Stockholm et qu'il pouvait pas s'échapper, malgré le fait qu'on sent qu'il porte du rose un peu, pas à son insu, mais parce qu'il se sent un peu obligé et qu'il est dans une maison qui ressemble à une maison de poupée et que, bon, bref, tout ce que je vous ai dit. Effectivement, il y a une comparaison plus qu'appuyée avec la Corée du Nord et avec les régimes dictatoriaux et totalitaires. C'est vrai que sa mère devient très vite et de manière assez évidente un exemple du totalitarisme. Et voilà, et elle est très vite comparée à justement ce dictateur nord-coréen, ce qui pour moi est plutôt fort quand même comme choix, d'avoir choisi notamment la Corée du Nord et de savoir parler comme ça d'oppression. C'est plutôt fort, je trouve. Il y a une fin qui est plutôt compliquée à interpréter, où en gros, je pense que la mère se transpose dans la nouvelle petite amie de son ex-mari, puisque en gros, il y a un moment où il y a un petit discours où c'est le discours de après la mort du dictateur, où on dit maintenant c'est Kim Jong-un qui va devoir reprendre là où son père a laissé les choses, etc. Machin. C'est à ton tour maintenant de reprendre le flambeau ou une chose comme ça. Et donc effectivement, si c'est à son tour, on pourrait se dire que c'est son fils qui va jouer dictateur. Et en fait, au moment où la copine de son ex-mari accouche, on lui dit c'est une fille, vous voulez l'appeler comment? Et elle fait Matteo. Voilà, donc pour moi ça peut vouloir dire ça. Après il y a des scènes très perturbantes qui ont fait qu'on a beaucoup fait « Ouh, ah !» Voilà, notamment une scène avec un ongle. Ah, j'ai en tête là, et un coupe-ongle. Sauf qu'on va pas couper le bout de l'ongle, on va couper beaucoup plus, voilà. Et ça, bref, ça fait mal. Voilà, des effets un peu gore comme ça qui fonctionnent pas mal. On a aussi, cette scène, elle est incroyable, mais vraiment incroyable. Une scène où la mère accouche de Matteo, mais de Matteo adulte. Voilà, et du coup, elle a un ventre, mais énorme. Et il sort littéralement. On voit, il y a vraiment le plan sur le vagin de la mère et de lui qui sort en étant adulte et qui se met directement à pleurer en position fœtale juste après être sorti. Genre vraiment cette scène, mais je me dis, mais putain, mais c'est pour ça que je viens à l'étrange. C'est pour voir des trucs comme ça. Voilà. Pour moi, ce film, c'est pour ce genre de film que l'Étrange Festival existe. Et vraiment, c'est devant ce genre de scène que je me suis dit, putain, mais c'est pour ça que j'aime le cinéma de genre, et c'est pour ça que j'ai voulu être accrédité à l'Étrange, c'est spécifiquement pour voir des trucs comme ça. Et donc du coup, pour moi, La Piedade, c'est vraiment le film, pour l'instant, de tout ce que j'ai vu, qui correspond le mieux à l'esprit de l'Étrange, et même en termes de qualité, en termes d'esthétique, il y a tellement d'intelligence dans son propos, d'exploitation à mort relation toxique et malsaine qui moi est quelque chose qui me fascine toujours quand c'est mis au cinéma, oui, il y a forcément un alignement des planètes qui fait que La Piedade c'est mon film préféré qui est en compétition, tout simplement. Et voilà, ça a été un très beau coup de cœur et j'ai très hâte de voir Skins, voilà, parce que je pense que ça doit être tout aussi barré. Et voilà, très content que ce film soit à l'étrange. De toute façon, ça ne pouvait pas être autrement. Vraiment, c'est pour ça que l'étrange et puis que les festivals de genre existent, c'est pour vraiment ce genre de film. Je sais qu'il repasse, je vais vous dire ça tout de suite, mais il repasse en plus. J'ai eu un mail de l'attaché de presse où ce sera en présence du réalisateur. Cette fois, il aura peut-être dû, enfin, vu comment il y avait du temps entre la séance de La Piedad et le film d'après, dont je vais vous parler dans quelques instants, je pense qu'il devait venir, mais qu'il a décalé sa venue, puisque il y a, voilà, le mail c'était pour notifier un changement. Mais donc, il repasse le 13, donc mardi, à 19h45, voilà, la même heure qu'aujourd'hui. Franchement, si j'avais pas une autre avant-première, pas du tout à l'étrange, mais je serais venu parce que sincèrement j'ai adoré ce film. Et puis voilà, essayer de parler un petit peu avec le réalisateur. Ah, il est dans la salle 300, c'est dommage. Bref, mais voilà, n'hésitez pas quand même, si jamais ça vous tente, à aller voir La Piedad, si ça vous dit, voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas à y aller parce que c'est absolument formidable. Et voilà, pour moi, c'est pour l'instant le meilleur film de cette compétition. Par contre, si j'ai vu aujourd'hui le meilleur film de la compétition, j'ai également vu le pire film, voilà, que j'ai vu depuis le début de ce festival. Vous l'aurez compris, voilà, la transition est un peu brutale, mais je peux vous dire que pour nous aussi, la transition a été très brutale. On va passer à Immunité collective de Adilkhan Yerzhanov.
Здесь был выход. Дело закроют. Забеги административно. А сидим. Выйди.
Лично. Давай, делай. В чем проблема?
Все. Конечно. Ноги. Штуку дадите.
Lorsque le coronavirus s'installe à Caratas, un gentil policier corrompu, ignorant les crimes et délits et spécialiste des pots de vin, se retrouve contraint malgré lui à faire régner la loi. Alors, je vous en avais parlé. C'est une comédie kazakh. J'étais avec Thibaut, que je salue s'il écoute ça. Thibaut et moi, les comédies kazakhs, on a eu une très bonne expérience l'année dernière avec Sweetie, You Won't Believe It, qui est disponible sur Shadows et que je vous encourage à découvrir encore une fois. Où on avait vraiment, c'est une séance totalement improvisée, où on c'était pas du tout prévu, on s'est dit go, voilà. Et c'était super, c'était génial, c'était une des meilleures séances de l'étrange de l'an dernier. Voilà, j'en parle dans l'épisode sur l'étrange 2021, vous pouvez y aller. Et donc c'est vrai que j'avais beaucoup d'attentes, surtout que le pitch m'attire, le pitch est plutôt rigolo. Ça fait partie de la Covid Protection, mais voilà, il y a eu des films plutôt sympathiques sur la Covid Protection, il y a eu des films horribles, mais j'avais envie de faire croire que ça passerait du côté des films sympathiques. Je vais couper court, je suis sorti de la salle. Ça m'arrive très peu, mais là vraiment il y avait rien, vraiment aucun, je voyais pas, en fait c'était le néant total et l'ennui, en fait, voilà, tout simplement. Et je sais pas, c'est ce film, je comprends pas. On nous a présenté, on a dit vous allez voir, vous allez rire et tout, j'ai ri, on a dû rester un peu plus d'une heure dans la salle, j'avais dû pouffer du nez une fois. C'est tout. D'ailleurs, je pense que si Thibaut n'avait pas été avec moi, bon, au final, il a eu le même avis que moi, donc on a été d'accord pour sortir tous les deux, mais je pense que je serais sorti beaucoup plus tôt. Maintenant, on va essayer de décrypter de pourquoi je trouve que c'est le pire film qui a été projeté jusqu'à maintenant. Le comique. Voilà, principalement, le comique, c'est censé être une comédie. Moi, quand je vais voir une comédie, je veux rire. Voilà. Ça ne m'a pas fait rire. Pourquoi ça ne m'a pas fait rire ? Très simplement, parce que ça repose sur des bases de comique qui sont, selon moi, pas incroyable. Il y a beaucoup de comiques de répétition. Notamment, on est au Kazakhstan, donc le héros essaye de parler kazakh. Et à chaque fois qu'il parle kazakh, on lui dit « Mais parle russe, t'es pas d'ici. » Donc, c'est, voilà, c'est un truc qu'on a, j'ai jamais compris pourquoi c'était autant. Ça devait être, peut-être, je sais pas, de l'humour local. Moi, ça m'a jamais fait rire. Il y a un autre truc, vous voyez, j'ai déjà oublié le film tellement... je comprends pas. J'ai déjà oublié le film. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais même plus quel running gag il y avait, pour vous dire. C'est un truc de malade. Oui, il y a toujours ce running gag où il essaye d'arranger les choses. Et en fait, il arnaque les gens en leur disant non, mais t'inquiète pas, là, ils sont juste là pour te mettre en quarantaine, etc. Et tout. Ouais, je te fais pas confiance. Bon, ok, ils allaient t'emmener en prison, mais enfin, c'est pas exactement ça. Mais bref, mais si tu me donnes tant d'argent, il t'arrivera rien. et donc il arrive toujours à les arnaquer. Donc voilà, c'est tout le temps ce même type d'humour. Donc forcément un peu relou, un peu redondant, surtout si ça prend pas. Il y a le seul truc un peu running gag qui m'a fait rire, c'est un mec qui fait ah oui bon bah on va faire gaffe coronavirus etc, où il a un espèce de pchit et voilà, où il désinfecte les mains des gens. C'est la seule fois où j'ai pouffé un peu du nez, mais sinon c'est pour moi d'un point de vue de la comédie c'est absolument le néant, et je me suis dit je vais attendre un peu, ça se trouve l'humour va évoluer, ça va entrer dans une forme qui me plaît plus. Et en fait l'humour n'évolue jamais, c'est tout le temps le même type, parce qu'en fait le film n'évolue pas, c'est tout le temps la même manière de former ses cadres, c'est tout le temps la même manière de filmer les événements, c'est tout le temps, voilà, principalement il y a beaucoup de plans fixes où on va avoir des personnages qui vont entrer dans le champ ou qui y sont déjà mais qui vont bouger de manière un peu bizarre, notamment il y a des gens qui ont explosé de rire à la première image, enfin la deuxième image du film où on découvre le héros. J'ai pas compris pourquoi, voilà, c'est vraiment un plan fixe. Mais donc oui, c'est souvent des plans fixes. Moi, les réalisations à plan fixe, j'aime bien, voilà. D'ailleurs, j'ai pas dit dans un pied d'âne, mais il y a pas mal de plans fixes, dont des plans qui s'approchent beaucoup du visage des personnages, et c'est très, très appréciable, pardon. Mais là, c'est vraiment des plans fixes pour moi qui sont vraiment faits par défaut. Où il n'y a pas vraiment de réelle intention, où si on essaye d'instaurer un espèce d'univers, un espèce de ton, de je sais pas comment appeler ça, j'ai pas le mot qui me vient en tête, d'ambiance, voilà, de un peu, voilà, je pense que ce que j'ai de plus proche c'est ambiance comique, mais qui en fait ne prend jamais, voilà, qui ne prend jamais, donc du coup le film s'enfonce là-dedans et moi ça me fait plus chier qu'autre chose, je vais pas vous mentir. C'est un film devant lequel j'ai ressenti beaucoup d'ennui, c'est un film qui, comme je vous l'ai dit, ne m'a pas fait rire. Et c'est un film qui, voilà, en fait, je pense qu'il est tellement convaincu de son humour, alors qu'après, peut-être que ça marche bien si vous êtes kazakh et que vous avez l'habitude de l'humour local, peut-être que ça marche bien, mais moi, en tout cas, ça n'a pas marché. Et en fait, c'est un film qui est, du coup, convaincu de ce qu'il est en train de raconter, convaincu de, voilà, ces personnages clichés avec le flic qui prend des pots de vin en chemise hawaïenne, l'autre flic hyper rigide en costard cravate, et en fait, ils ont un point commun, c'est que le costard cravate, il sort avec l'ex-femme du mec en chemise hawaïenne, sauf que du coup, ils vont mal, ils vont divorcer, et que son ex-femme lui fait « on pourra se remettre ensemble ». Bref, voilà, ces clichés-là, il y a des clichés-là comme ça. Et donc oui, ce film, en fait, est convaincu, je pense, de son efficacité, contrairement à moi, voilà. Et donc, en fait, il reste là-dedans, il s'enfonce là-dedans, et en fait, j'ai l'impression de voir un film qui n'évolue pas, qui reste constant, et en fait, les événements scénaristiques n'ont aucun impact, parce que j'ai l'impression que le film, dans son ambiance, reste toujours le même, voilà, qui ne change jamais, qui n'apprend pas, qui ne tente rien, en fait, qui se met dans une zone, entre guillemets, de confort, qui, pour moi, n'en est pas une, parce que c'est pas quelque chose forcément que j'apprécie. Et donc, voilà, de par cette zone de confort-là, c'est un film qui m'ennuie vraiment, c'est un film qui ne me fait pas rire, et c'est un film devant lequel j'ai passé un très mauvais moment. Et c'est, pour l'instant, le pire film que j'ai vu dans ce festival, et j'ai pas forcément envie de lui accorder plus de temps. Et voilà, c'est la fin de ce long épisode, mon Dieu, ça fait quasiment une heure que j'enregistre. C'est beaucoup, voilà, du coup je vais m'empresser de vous énoncer mon programme de demain. Alors il y aura 3 films, on aura, dont 2 que j'attends beaucoup, en vrai les 3 je les attends beaucoup. On aura Inuo, qui est un film d'animation japonaise comédie musicale, on aura Sick of Myself, qui est un film de la compétition, qui est une comédie, et on aura L'Origine du Mal, voilà, l'avant-première avec équipe de L'Origine du Mal, que j'attends de tout mon cœur, vraiment, c'est vraiment, je pense, peut-être la séance que j'attends le plus. Voilà, donc j'espère que ça sera bien. J'espère que Doria Tillier sera là. Et puis écoutez, bah, on verra bien, je vous parlerai de tout ça demain. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à mettre des petites notes sur les plateformes qui proposent. Et pour ma part, je vous dis à demain pour les films que j'aurai vus aujourd'hui.